On va maintenant revenir à une échelle plus modeste, nationale, mais en revanche, qui est toujours centrée sur l'idée de passage à l'échelle un petit peu, avec Claudio Simili, qui est donc directeur, pardon, non pas directeur, mais directeur de projet, voilà, à la direction du numérique pour l'éducation. J'allais dire directeur du numérique pour l'éducation, mais non. J'anticipe peut-être un tout petit peu.
C'est de la science-fiction.
Ah, on verra, on verra de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, merci beaucoup, cher Claudio, de nous rejoindre aujourd'hui et de nous donner un peu une perspective de politique publique, hein, sur les acteurs publics. Donc, le thème, c'est comment mettre en place les conditions, et c'est avec cette séquence qu'on va terminer notre conférence débat aujourd'hui, comment mettre en place les conditions d'une diffusion plus large de solutions d'IA en éducation, puisqu'on a vu que c'était une des questions clés, hein. Certes, il faut définir un cadre de régulation, il faut outiller et accompagner les professionnels, mais il y a aussi cette question clé d'une diffusion plus large. Enfin, bien sûr, c'est dans le cadre des contraintes ou des limites qu'on a pu poser avant. Il ne s'agit pas de promouvoir l'IA en éducation pour l'IA en éducation et à n'importe quelle condition. Ça, je crois qu'on en a bien discuté jusqu'à présent. Alors, les quelques propositions, je vais rapidement les présenter et puis ensuite vous laisser la parole pour à la fois y réagir et puis nous donner vos propres perspectives sur le sujet. Notre perspective, c'est vraiment de mettre l'IA au service des enseignants pour promouvoir l'école inclusive. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre première proposition sur le sujet, c'est d'accélérer le déploiement des solutions d'IA qui sont centrées sur les élèves en difficulté et ceux à besoins éducatifs particuliers. Et donc, ça, c'est le kit, et avec l'idée que ce qu'on pourra déployer au service de ces élèves pourra ensuite servir plus largement pour les autres publics, même si là, on parle déjà de quasiment 20% des élèves. Donc, ce qu'on propose, c'est de concevoir, rédiger, lancer un ensemble d'appels à projets qui devront répondre à plusieurs critères, distinguer précisément les différents besoins spécifiques des élèves selon les difficultés particulières qui sont les leurs, auxquelles les projets souhaiteront répondre, sécuriser les destinataires des données amenées à être recueillies en fonction de leur sensibilité. Par exemple, ce qui concerne les données de santé, qui sont une question clé pour ce type d'élèves, doivent être soumis à une confidentialité encore plus stricte. Et ça pose la question du respect du secret médical. Ensuite, indiquer dès le départ, dans tous les dispositifs et supports pédagogiques à développer grâce aux données collectées, une dimension inclusive aussi large que possible. Les adaptations destinées aux élèves à besoins spécifiques s'avérant, comme je viens de le dire, bien souvent profitables à tous les élèves. Et donc, ces appels à projets auraient pour finalité de développer de manière rigoureuse, scientifique, documentée, des outils d'aide au repérage de troubles d'apprentissage ou de besoins spécifiques, de façon à pouvoir orienter aussi précocement que possible les familles vers les équipes médicales, paramédicales appropriées, des outils d'aide à l'identification et à la compréhension du décrochage, des dispositifs de remédiation ou d'adaptation spécifiques. Des dispositifs d'accompagnement, d'aide à la décision, de remotivation, mais aussi pour l'orientation, et des dispositifs d'analyse comportementale permettant d'identifier des compétences ou de décomposer des modes spécifiques de résolution de tâches chez un individu afin de rendre plus opérationnels et concrets les répertoires de compétences. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de mettre en place des laboratoires participatifs pour co-construire, et on a déjà beaucoup insisté sur l'intérêt de la co-construction, notamment pour intéresser les enseignants, une méthode IA et de méthodes et d'outils pédagogiques. Donc, on a déjà le 110 bis qui se positionne un peu comme un espace ouvert de partage et d'expérimentation. La DNE développe aussi un écosystème d'incubateurs académiques. Dans le cadre du PIA2, le projet IFRAN a permis le développement de projets dans plus de 300 écoles. Notre proposition vise à accélérer ce mouvement en encourageant la mise en place d'écoles laboratoires, ce qu'on appelle des learning labs, qui mettent en, donc, mettre en place une ou plusieurs écoles laboratoires pouvant servir de pôle d'appui spécifique au thème de l'IA et diffuser les outils pour multiplier les démarches et expérimentations locales, notamment dans des écoles de type Lab School dans ce domaine. La troisième proposition, c'est de consolider un réseau de recherche consacré à l'IA en éducation et constituer un pôle de compétitivité dédié. L'idée, c'est de consolider le réseau de recherche consacré à l'IA à l'enseignement qui pourra prendre la forme d'un institut interdisciplinaire d'IA, idéalement décentralisé, constitué de deux têtes, une tête entre guillemets informatique et une autre pédagogique qui gagnerait à être décentralisée et constituer un pôle de compétitivité dédié pour consolider l'écosystème d'innovation IA en éducation et faciliter les synergies entre acteurs publics et privés et surmonter le silotage lié aux différentes cultures scientifiques sans sacrifier pour autant la spécificité des approches disciplinaires. Voilà. Et la dernière proposition, et ensuite je laisserai la parole à Claudio Simili, c'est de lancer un plan d'investissement pluriannuel pour développer l'IA en éducation. Il y a déjà plusieurs programmes de financement public qui existent, hein, le plan Deep Tech qui est porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, le partenariat d'innovation porté par le ministère de l'Éducation nationale avec la Caisse des dépôts, le programme d'investissement d'avenir. Mais il y a quand même différentes limites. Hein. D'abord, on manque de visibilité stratégique de long terme qui coordonne et qui pérennise les investissements en matière de recherche et d'innovation, d'équipement, de formation, de développement industriel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que la répartition actuelle des sujets d'IA et d'éducation dans les périmètres de plusieurs ministères ne permet pas une bonne articulation entre l'action interministérielle et la spécificité de la perspective de l'enseignement. Nous, ce que nous proposons, c'est d'inscrire l'éducation parmi les priorités du Fonds d'investissement pour l'innovation et l'industrie, de définir une stratégie d'investissement national en matière des tech qui inscrive le développement des solutions d'IA en éducation dans le développement plus large de cet écosystème et de manière très concrète et ciblée, d'étendre le décret de 2005 sur les investissements stratégiques à l'enseignement pour mieux protéger ces actifs. Voilà. J'ai déjà parlé un peu longtemps. Je vois que Claudio Simili se gratte la tête. Je vous laisse la parole pour réagir et nous présenter un peu les perspectives du ministère sur ces sujets.
Bonjour à tous déjà. Merci de m'avoir invité et de nous avoir invités. Le nombre de propositions est assez important et les questions sont à la fois assez précises. Il y en a certaines qui sont dans le périmètre du ministère, d'autres qui sont peut-être au-delà du périmètre du ministère. Et on a un certain nombre de réponses qui rejoignent, on va dire, un certain nombre de préoccupations européennes. Donc, on a vu des préoccupations mondiales, mais il y a également un certain nombre de préoccupations européennes. Et sur les questions d'IA, il y a déjà, je pense, un petit absent dans l'ensemble des propositions qui porte, on va dire, sur les données, parce qu'il n'y a pas d'IA sans données. Oui. Et une des questions fondamentales, finalement, pour développer des dispositifs d'IA, et ça a été évoqué notamment au niveau, on va dire, d'enfants qui pourraient avoir des troubles et qui nécessiteraient de mobiliser ou de manipuler un certain nombre de données médicales qui, je le rappelle, au sens du RGPD, sont des données sensibles, il y a, on va dire, la façon dont on pourrait recueillir ces données, sécuriser le recueil de ces données et entre guillemets, pouvoir entraîner des IA particulièrement là-dessus. Alors, je vais tenter de répondre en fait à l'ensemble des propositions et aux actions qui ont été engagées par le ministère, notamment pour aller finalement dans un certain nombre des sens des propositions qui ont été faites. D'ores et déjà, en tous les cas, le ministère avait embrayé avec deux actions qui sont assez importantes. Une première action qui était les partenariats d'innovation, le P2IA. Oui. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, un travail qui s'effectuait à la fois avec la recherche, mais à la fois avec les établissements scolaires qui étaient sur les GTNUM. Et enfin, ça a été évoqué, on va dire, tout ce qui a été le soutien un petit peu à la recherche qui a été faite par le travail de l'équipe Monteil. Voilà. Donc, si je reprends l'action du P2IA, l'action du P2IA est quand même une action tout à fait particulière qui dure depuis maintenant 3 ans, où il y a eu une première phase qui concernait et qui concerne toujours le cycle 2, qui a été d'amener, on va dire, des solutions d'intelligence artificielle à être construites à la fois au plus près du besoin des élèves et des classes, et dans une idée de différenciation pédagogique en fonction des difficultés qui sont rencontrées, et qui mettait en relation à la fois le terrain et la recherche et les entreprises. Et je pense que c'est tout à fait original pour être souligné. Bien sûr, ce qui est plusieurs des propositions qui ont été évoquées, cette mise en perspective permet, entre guillemets, d'aller vers des solutions qui ensuite sont financées par le ministère pour être diffusées de façon très large. Donc, c'est un élément de solution sur lequel on est en train de rebondir, puisque le premier P2IA qui arrive d'ailleurs maintenant à la diffusion des ressources et où quasiment toutes les académies ont participé à la mise au point et à la liaison avec la recherche dans les phases 1 et 2, on arrive donc à une période de diffusion et donc de généralisation de ces ressources pour le cycle 2 en mathématiques et en français. Et donc, il y a 6 EdTech qui ont travaillé en étroite collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche que nous connaissons tous, qui ont tous participé à ça, et entre guillemets, les produits vont sortir. Alors, il est peut-être un petit peu tôt pour, par exemple, évoquer ce qui a été évoqué précédemment sur, évidemment, l'efficience de ces dispositifs. Simplement, l'efficience a été mesurée tout au long de la conception de ces outils. Donc, on pense qu'ils vont coller assez bien, finalement, au cahier des charges, parce qu'il y a eu un processus, entre guillemets, de mise au point qui a été assez lent. Et par ailleurs, dans un contexte particulier, qui était qu'on ne peut pas faire comme les GAFAM, aller chercher des données massives sur les API de Google, il fallait qu'on recueille, on va dire, un certain nombre de données dans des périmètres assez restreints pour les sécuriser, bien entendu. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a un deuxième élément de réponse, ça va être l'extension de ce PIA. On va passer à une extension en cycle 3, encore après en cycle 4. Et après, au lycée. Donc, c'est une méthodologie qui nous permet de déployer, de diffuser des solutions produites par les EdTech en collaboration avec la recherche et au plus près des besoins du terrain qui peuvent être utilisées en maximisant la différenciation pédagogique et en laissant, bien sûr, le contrôle aux enseignants. Parce que toute une question... elle est aussi dans le fait de l'intervention et des enseignants. Par rapport en fait aux autres questions qui étaient posées sur un petit peu de coordination et de travaux de coordination, il y a un certain nombre d'actions. Donc, il y a une évolution des GTNUM. Les GTNUM, il y a 2 GTNUM qui ont été créés après la première vague de GTNUM sur à la fois un travail sur la recommandation, voilà, puisque tout ce qui est évoqué, là, par exemple, le fait d'aller chercher ou de comprendre qu'un élève est décrocheur, j'ai trouvé très intéressant les propos du dernier intervenant sur l'efficience de ces outils, dépend bien évidemment de plusieurs facteurs. Un des facteurs fondamentaux, c'est le croisement de plusieurs jeux de données. Okay. Et une des questions, c'est... comment peut-on croiser ces jeux de données et avec quelle efficience peut-on entraîner des modèles? Il existe dans plusieurs universités françaises, plusieurs travaux d'ailleurs qui ont vu le jour, qui sont des travaux plutôt proches du coaching. Aujourd'hui, dans l'éducation, on est quand même à mal pour sortir ce genre de travaux parce que derrière, il y a aussi un niveau d'acceptation au niveau des enseignants et des chefs d'établissement. Et je vois qu'il y a Claude Tran en ligne, ce n'est pas lui qui était chef d'établissement, qui me contredira en disant qu'un certain nombre de chefs d'établissement savent déjà à peu près très bien quels sont les élèves qui sont en phase de décrochage. Alors la question n'est peut-être pas, par exemple, par rapport à une question qui est posée, de voir qu'un élève est en train de décrocher. Globalement, il y a des signes avant-coureurs qui sont remontés par les équipes éducatives, par les profs principaux, par différents enseignants, qui sont des très bons indicateurs pour le décrochage. J'ai envie de dire où l'intelligence artificielle peut avoir un intérêt, c'est dans la phase avant. C'est-à-dire quand il y a des dérapages qui ont lieu, qui peuvent avoir lieu, des micro-décrochages sur certaines disciplines ou sur certaines actions qui peuvent peut-être se découvrir en croisant plusieurs jeux de données. Et toute la sensibilité est là. c'est la capacité de croiser ces jeux de données. Alors, je vais prendre un exemple, hein, les jeux de données qui peuvent être croisés peuvent être liés aux absences, au retard, certes, c'est basique, aux notes, bien sûr, aux appréciations, bien sûr, et par exemple, à la procrastination. C'est-à-dire, oui. Il y a des moments, il y a des évaluations, et donc il y a des données type cahier de texte, et il y a de l'activité numérique de l'élève. D'accord ? Comment est-ce qu'on croise l'ensemble de ces données ? C'est extrêmement important parce que je pense que les outils ont une efficience qui dépend beaucoup des données. Donc, ça a été évoqué également précédemment. Okay, si on a du mal à savoir comment l'algorithme se construit, puisque finalement, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui va se construire au travers, on va dire, de la phase d'entraînement, la plupart du temps. Okay, si ça, c'est une question, entre guillemets, l'efficience est due souvent à la richesse des données et à la qualité des données. Et donc, pour travailler efficacement sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, il y a la question des données qui devient fondamentale et de recueillir les données. Ce n'est pas une façon de botter en touche, c'était aussi une façon d'introduire le travail d'un GTNUM comme celui qui va travailler sur la recommandation. Et donc, ce n'est pas uniquement pour travailler sur les questions qui vont être liées au décrochage, c'est pour tout type de recommandation. Parce que derrière ça, il y a aussi un côté éthique que je rappellerai, qui est tout simplement, c'est est-ce qu'à partir du moment où on est susceptible de faire des recommandations directes ou de faire des recommandations managées par les enseignants, est-ce qu'on ne va pas, par exemple, fausser le jugement de l'enseignant ? Vous voyez ? C'est-à-dire que dès qu'un enseignant a une formation sur une recommandation par rapport à un élève, par exemple par rapport à l'orientation, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est susceptible soit d'asseoir, entre guillemets, son opinion, soit de fausser un petit peu son opinion en faisant confiance de façon relativement aveugle au résultat de l'algorithme. Donc ça, c'est une véritable question éthique. Et d'ailleurs, on s'est doté d'un comité d'éthique de la donnée, plus que sur l'intelligence artificielle, pour réfléchir à ça, parce qu'on est convaincu que les questions qui vont porter sur le résultat de la recommandation sont liées très fortement aux données et au biais des données, ou alors à la difficulté de croiser plusieurs données. Ensuite, il y a un GTNUM qui est parti sur l'interaction. Parce qu'effectivement, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi à l'interaction homme-machine, et sur la façon dont cette interaction est un informateur, on peut donner des informations sur la façon dont les interfaces sont utilisées et dont on peut mettre les interfaces au mieux à disposition des élèves dans les situations d'apprentissage. Ça peut revenir à des questions de recommandation. Enfin, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont sortis dans le cadre de l'accélération ou des différentes stratégies d'accélération. On a sorti des challenges innovation, hein, et donc dont il y a eu un certain nombre de réponses qui portaient également sur l'intelligence artificielle. Alors après, dans les questions qui étaient posées, il y a des questions qui portent sur la façon dont tout ça est managé. Si je ne m'abuse, voilà. Il y a alors l'ensemble des dispositifs hein, associent bien sûr des possibilités de financement qui peuvent être données par exemple aujourd'hui par la stratégie d'accélération, et puis on l'évoquera peut-être par le plan d'équipement pour la recherche, notamment pour ce qui va concerner par exemple l'entrepôt de données d'éducation. Hein, on appelait l'éducation Data Hub, mais on est en train de franciser l'appellation, donc c'est plutôt un entrepôt de données d'éducation, et donc qui va être lancé dans le cadre du plan d'équipement par la recherche et dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, entre guillemets, à l'INRIA. Mais, on va dire, la coordination un petit peu de tout ce qu'on fait sur l'IA a été ramenée au niveau du ministère dans un bureau, qui est, on va dire, le bureau de l'innovation et de soutien à l'innovation à la recherche appliquée, qui coordonne l'ensemble de l'action du ministère, à la fois sur le P2IA, sur les travaux qui sont en train de se faire sur les challenges éducation, mais également sur les GTNU, ce qui permet, et c'est ce que vous aviez souligné dans vos propositions, d'essayer de donner plus d'efficacité, entre guillemets, à tout l'écosystème, de façon à permettre, entre guillemets, d'avoir une coordination de l'ensemble de l'ensemble des actions. Tout ça, bien sûr, avec ce dont se sont dotés l'ensemble des ministères, qui est le fait de se doter pour chaque ministère d'un administrateur ministériel des données, et finalement qui va agir aussi sur l'ouverture des codes, qui a pour responsabilité de travailler sur l'ouverture des données et sur la circulation des données. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je vais insister, qui est assez fondamental, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, sans données et sans capacité de circulation ou d'ouverture de données, quand je dis ouverture, ce n'est pas uniquement au sens de l'open data, c'est, on va dire, avoir peut-être des données qui sont quelquefois à caractère personnel, mais avec des mesures de protection renforcées. Je rappelle que quand une donnée est obfusquée ou quand une donnée est pseudonymisée, c'est toujours une donnée à caractère personnel, mais elle bénéficie de mesures de protection renforcée. Eh bien, de regarder les façons dont on peut à la fois utiliser ces données, autre que pour un traitement statistique, mais pour un service public, par exemple, pour une utilisation avec des finalités publiques, dans des conditions éthiques responsables, etc. Mais également, comment est-ce qu'on peut amener à, par exemple, travailler dessus et mettre en place un dispositif qui permette d'associer les EdTech, la recherche, etc. Et c'est un petit peu ça, la finalité de cet entrepôt de données d'éducation qui est en train de se monter dans le cadre du PEPR. Et donc, dans le cadre de cet entrepôt, bien sûr, on peut parler de mise à disposition ou de possibilité d'accès ou de potentialité d'accès, entre guillemets, aux données, mais également de catalogage ou d'exposition d'algorithmes. Et quand on parle d'IA, ce n'est pas tant d'algorithmes, d'ouverture d'algorithmes, mais surtout de process, c'est-à-dire, on va dire, quelles sont les données de référence qui ont été utilisées, quel est le résultat sur ces données de référence et quel a été le process, entre guillemets, d'entraînement. Et ensuite, dans les algorithmes d'IA qui ont été entraînés, on va dire, quelles sont les différentes couches, entre guillemets, de neurones et la façon dont ces couches se sont articulées ou ont été articulées de façon à être entraînées de façon efficace. Donc, l'ensemble de ces éléments devraient ou seront en partie portés par le futur entrepôt de données d'éducation, comme vous le voyez, qui a une dimension qui est un petit peu plus large, entre guillemets, que simplement celle d'être un entrepôt, ce qui d'ailleurs, en termes de définition, c'est plus vraiment un entrepôt, hein, puisqu'un entrepôt, ça donne l'idée un petit peu qu'on va stocker les données quelque part. Non, on peut laisser les données où elles sont et mettre en œuvre les conditions de catalogage et de sécurité pour pouvoir y accéder, les mettre en relation. Donc, on voit bien que l'idée n'est pas forcément de faire un big entrepôt de choses, mais plutôt de mettre en place les conditions pour le lier et pour les faire circuler. Enfin, effectivement, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont passés par l'intermédiaire, par exemple, de la DGE, qui sont fournis par BPI. Beaucoup d'appels à projets aujourd'hui viennent de la Commission européenne et notamment, il y a un certain nombre de questions qui sont des appels à projets sectoriels pour aller vers les entreprises et de façon à soutenir des actions qui sont sur des espaces de données sectoriels. Un espace de données sectoriel, hein, ça peut être l'énergie, ça peut être également l'éducation et les compétences. Hein, et dans le cadre du ministère, alors comme vous le savez, il y a eu des états généraux du numérique pour l'éducation.
On y a nous avons, participé.
Voilà, et nous avons bien entendu beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces aspects et donc sur la relation nationale, européenne et internationale. Et un certain nombre d'actions ont prévu déjà tout ce que je suis en train d'évoquer avec vous, notamment la question, entre guillemets, de la gouvernance des données. Donc, on a évoqué l'AMDAC, un bureau, mais également il y a un comité de la donnée au niveau du ministère qui est présidé par la secrétaire générale, hein, donc pour vous dire quelle est l'importance et le niveau d'importance qu'on y donne, et également anticiper ce qui allait se passer un petit peu au niveau européen, au travers notamment du projet qui est un projet de souveraineté, entre guillemets, au niveau de la donnée et de la donnée au service, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Alors, très souvent, il y a une mauvaise vision de ce que pouvait être Gaia-X. Ce n'est pas faire un méta-cloud, hein. C'est de mettre en œuvre au niveau sectoriel un certain nombre de règles qui garantissent à la fois l'éthique de l'utilisation des données, mais également et surtout la souveraineté et les conditions de circulation des données pour que, entre guillemets, en Europe, on n'ait pas un retard technologique important et qu'on puisse valoriser la donnée dans des conditions qui conviennent à un cadre européen. Donc, on va dire, c'est pas une infrastructure en tant que telle, c'est les conditions et c'est les règles qui permettent à cette infrastructure de fonctionner. Et parallèlement, donc, il y a des appels à projets de la Commission européenne qui se font, et ces appels à projets de la Commission européenne permettent aux pays, comme la France, par l'intermédiaire de BPI, de faire des appels à projets, on va dire, qui sont des appels à projets qui visent à renforcer les différents secteurs et de financer, entre guillemets, la création de ces espaces de données. Eh bien, on a créé, à la suite de tout ce travail qui s'est fait dans les États généraux, un groupe de travail France au sein, entre guillemets, de la délégation qui avait été donnée en France au CIGREF pour monter le Hub France, des groupes de travail qui allaient fonctionner dans le cadre de tous ces aspects européens. Et ce groupe de travail, à laquelle d'ailleurs Déborah qui est là participe, réunit l'ensemble des associations des EdTech françaises, et coordonnée à la fois par le ministère et France Éducation Internationale, qui est notre opérateur à l'international, et en relation avec le CIGREF, l'Académie des technologies, et également le pôle systématique. Et donc, le fait d'associer l'ensemble des associations des EdTech françaises, plus d'autres opérateurs de l'État comme l'UNICEF, l'INRIA, plusieurs grandes universités, a permis, on va dire, de dégager un certain nombre d'axes prioritaires qui nous ont permis, qui ont permis la création d'une association qui s'appelle Prometheus-X et qui va essayer de développer la première infrastructure de circulation des données et de travailler au niveau européen pour là apporter une sorte de lead sur ce qu'on pourrait faire avec les autres pays dans le domaine de l'éducation, de la formation tout au long de la vie et des compétences pour faciliter à la fois la circulation des données dans un cadre souverain, éthique, et permettre l'émergence de solutions à base d'intelligence artificielle permettant de couvrir, on va dire, l'ensemble de notre secteur. Voilà un petit peu brossé très rapidement l'ensemble Merci des beaucoup. Actions qui ont été engagées, alors très rapidement, je ne sais pas, mais brosser l'ensemble des actions qui ont été engagées en s'appuyant d'ailleurs pour partie hein, sur des éléments de recommandation que vous aviez faites, puisque effectivement, ça a été exposé, publié, et ça a eu un retour très intéressant. Et en même temps, je pense qu'à certains moments, on a même été, notamment sur le point de vue européen, peut-être un petit peu plus loin qu'un certain nombre de recommandations, même si certaines n'ont pas pu être mises complètement en application. En tous les cas, notre intention était bel et bien de travailler très fortement sur ce domaine. Alors, dire simplement que dans les travaux qu'on est en train d'engager, bien sûr, on n'est pas tout seul. Ça va aussi avec une évolution et peut-être une évolution de la stratégie du numérique pour l'éducation, dans lequel la donnée est quelque chose, et la valorisation de la donnée est quelque chose de fondamental. Mais au travers de la valorisation de la donnée, il y a également la façon de la faire circuler et donc où les notions d'interopérabilité vont devenir quelque chose de fondamental dans les années à venir, d'ores et déjà aujourd'hui.
D'accord. Ben, un très grand merci, Claudio, pour effectivement ce panorama très complet et en même temps très synthétique de ce que vous faites. Je vois que l'heure tourne, donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour un échange de questions. Je dirais, voilà, on est donc comment cette conférence débat s'inscrit dans le cadre des États généraux de la transition inclusive. Hein, comment mettre la transition écologique et numérique au service de l'inclusion, si on et en notamment dans une perspective de nourrir le débat public pour le prochain quinquennat. Donc, notre dernière question serait peut-être un peu celle-là, c'est si vous aviez une recommandation un projet particulier qui vous tenait à cœur pour promouvoir l'IA en éducation au service des enseignants pour faire réussir l'école inclusive. Si vous avez une idée, quelle serait-elle pour le...
Trois idées.
Ouais.
Valoriser les données.
Oui.
Valoriser les données.
Oui, oui.
Interopérabilité.
Oui. Voilà. Oui.
Et ouvrir les datasets et les algorithmes.
Ouvrir, ça veut dire quoi?
Eh bien, que ce soit des choses qui soient libres et ouvertes.
D'accord. OK. Un peu comme le logiciel libre, c'est ça?
C'est ça.
OK. OK, très bien.
Notamment l'algorithme les process, libre. C'est-à-dire que dans le domaine de l'IA, j'irai au-delà de l'algorithme libre, parce que on va dire, rien ne ressemble plus à un réseau de neurones non entraînés qu'à un autre réseau de neurones non entraînés. La question, c'est plutôt le process.
Oui, oui, oui. Okay.
Qu'on ait des process transparents et qu'on puisse les reproduire.
OK. Bon, eh bien, sur ces des paroles très sages ces belles recommandations que nous allons nous arrêter. Encore un immense merci, Claudio, pour votre temps et pour cet échange. Nous allons de notre côté enrichir le livre blanc avec les propos et les discussions d'aujourd'hui et puis le republier dans quelques jours. Je rappelle que cette conférence sera dès les prochains jours en replay audio et vidéo sur les réseaux sociaux, sur le site le plus important et des états généraux. Voilà, merci Claudio Simelli, bonne continuation à vous. Et sans doute à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir.